Bonjour, ça va bien tout le monde? Est-ce que vous êtes réveillés? Moi, je vous sens un petit peu endormi. J'espère que vous allez vous réveiller. Cette semaine, j'étais en train de réfléchir un peu au passage. On est dans Romains 14, puis une des choses que je me disais, c'est que dans une église comme celle-ci, où il y a autant de diversité culturelle, il me semble qu'on devrait pouvoir goûter à la bouffe de tous les pays, n'est-ce pas? Amen! Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec quelqu'un, puis elle me parlait de sa petite sauce qu'elle m'a apportée, qui était incroyable. Elle était incroyable, c'est vrai. Mais ça parle de repas. Ça parle de prendre des repas ensemble. Et il me semble que dans une église qui a une telle diversité culturelle, on devrait toujours être en train de s'inviter les uns les autres pour partager des repas, pour prendre du bon temps ensemble. Parce que les repas, c'est là où les vraies relations commencent. Honnêtement, c'est là qu'après une bonne demi-heure assis à discuter, à échanger, on commence à se lancer dans des sujets, à faire connaissance avec des différences, des différentes opinions aussi. Des fois, c'est là qu'il y a des accrochages, c'est là que la vraie nature se manifeste. Mais en même temps, c'est ça l'Église. On vit à une époque et dans une culture qui a énormément changé et moi, je dirais qu'il est plus individualiste que jamais. Je sais qu'on... On veut se dire qu'on ne l'est pas, mais je pense qu'après la pandémie, c'est pire encore. Et je ne sais pas combien de fois je discute avec des gens qui découvrent le Québec et qui me disent « On dirait que les gens ne se côtoient pas. On dirait que les gens ne se visitent pas. » Pourtant, je me souviens, lorsque j'étais petit gars, dans mon quartier, tout le quartier jouait ensemble. On jouait au ballon chasseur, on jouait à kicker la cacane. Tout le monde jouait dans le quartier. Tu te connaissais, tu ne te connaissais pas. Tu voyais les jeunes qui sortaient dans la rue, on allait jouer ensemble. Puis les années ont passé, et est-ce que je connais même mes voisins, est-ce que je les invite chez moi? Mais dans l'Église, c'est l'endroit où l'hospitalité devrait briller. Et qui dit hospitalité parle de vraies relations. Le dimanche matin, lorsqu'on vient à l'Église, c'est assez simple d'être poli, d'être respectueux, de sembler respecter tout le monde. Mais si on commence vraiment à se côtoyer, c'est là que la puissance, la beauté de l'Évangile va pouvoir faire toute la différence. Et lorsque des gens qui n'ont pas une église comme communauté, comme famille, vont venir dans nos groupes connexions, dans nos maisons, à nos barbecues, vont découvrir combien l'Évangile peut rassembler des gens qui en fait sont réunis par une personne, par Jésus-Christ. On arrive à la fin de notre série dans Romains 14. Il nous reste encore un message la semaine prochaine. Mais les chapitres Romains 12, 13, 14 suivent un fil conducteur. Dans Romains 12, Paul a commencé à nous dire qu'on devait être prêt à surmonter le mal par le bien. Il va dire de laisser à Dieu la vengeance. Et dans Romains 13, il va nous dire, bien même les autorités pour exercer la justice, votre dette à vous, ce n'est pas de vous rendre justice, c'est une dette d'amour, c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. Et puis, comme terminant ce fil conducteur-là, Paul arrive dans Romains 14 à nous dire, même dans le domaine des opinions, même dans le domaine des opinions divergentes dans l'Église, l'amour doit dépasser ça et l'Église devient l'endroit où on a la liberté de s'aimer les uns les autres. Et c'est notre prière que l'Église de l'espoir porte vraiment le parfum de Christ. Et quand je vois la diversité culturelle, la diversité générationnelle dans l'Église, je me dis, on a une opportunité exceptionnelle de porter le parfum de Christ en montrant qu'on peut avoir de vraies relations ensemble malgré toutes ces différences-là. Danny va nous lire Romains 14. Écoutons la lecture de la parole de Dieu puis on va plonger ensemble dans ce beau chapitre.
Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen.
Amen. Merci, Danny. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Puisque Jésus-Christ est Seigneur et juge de tous, abandonne le mépris et le jugement dans les questions d'opinion pour aimer et édifier ton frère. Est-ce que c'est possible dans l'Église d'avoir du mépris et du jugement? Oui, c'est très, très possible. Ça fait trop longtemps que je suis chrétien pour douter de ça. Et le dimanche matin, comme je disais, bien, on s'accueille, tout va bien, salut. Ça peut être assez superficiel le dimanche matin. Ça peut être très profond parce qu'on vient dans la louange, on chante des chants de louange, on voit des gens qu'on aime avec quelques personnes. Je prends des nouvelles, je suis plus proche de ces gens-là, on reçoit le message de la parole. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers ce moment-là. On part, puis on peut être bouleversé personnellement, mais en même temps, il y a plein de relations qui peuvent rester très, très, très polies, mais avec beaucoup de gens que j'inviterai jamais à manger chez nous. Parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a une différence, pour toutes sortes de très mauvaises raisons, mais on peut rester très poli. Romains 14 nous montre que Jésus-Christ ne nous appelle pas seulement à se tolérer. Hein, c'est comme une valeur en vogue dans la société, la tolérance. Les chrétiens ne sont pas appelés à se tolérer. Êtes-vous d'accord? Je ne suis pas appelé simplement à te tolérer, je suis appelé à t'aimer. La semaine dernière, on disait « ce que j'ai envers toi, c'est une dette d'amour. Si tu appartiens à Christ, ce que tu as envers moi, c'est une dette d'amour, pas une dette de tolérance. C'est correct, je le t'offre. » Non, ce n'est pas à ça que je suis appelé. Non, on est vraiment appelé à s'accueillir les uns les autres comme Dieu nous a accueillis en Christ. Et ça, ça veut dire que ça va beaucoup plus loin qu'une simple tolérance. Ça veut dire qu'on va être appelé à se côtoyer. Est-ce que quelqu'un de très différent de toi se sentirait vraiment bienvenu à ta table, dans ta maison? Est-ce que tu as reçu dans les derniers mois quelqu'un qui t'était plutôt un inconnu à manger à la maison? Ou mieux encore, est-ce que tu as reçu à ta table, à manger chez toi, un frère, une sœur de l'Église que tu ne connaissais pas? Si Dieu nous exhorte à aimer tous les hommes, Paul revient souvent avec cette exhortation en commençant par la maison de Dieu. Il y a deux semaines, on a dit que l'Église est l'atelier où nous apprenons à aimer vraiment. Et c'est dans les relations qu'on va apprendre à le faire. Je peux le vivre à travers un groupe connexion, je peux le vivre en ouvrant ma maison, en recevant des gens à manger chez moi. Mais moi, je prétends que le repas, encore aujourd'hui, comme depuis des milliers d'années, prendre un repas ensemble, manger ensemble, c'est un lieu de communion exceptionnel où on commence à être vraiment nous-mêmes, à se détendre, à échanger, à partager, à s'édifier l'un l'autre et bien sûr à exposer des divergences aussi. C'est autour d'un repas que les conversations, les vraies conversations, sont possibles. Et honnêtement, les différences entre chrétiens apparaissent rarement le dimanche matin. Le dimanche, tu viens, puis la première fois que tu viens dans une église, si c'est la première fois que tu viens ce matin, là, tu as regardé ça, tu as dit, OK, le dress code ici pour le dimanche matin, bon, le gars qui est sur le stage, peut-être qu'il y a un veston, peut-être qu'il n'y a pas un veston. Viendrai la semaine prochaine, il n'y aura pas de veston, je vous le dis. Mais peut-être qu'il y a un veston, peut-être qu'il n'y a pas de veston, les gens sont habillés comme ça, ça c'est les codes. Tu sais, tu décodes tout ça, puis la semaine prochaine, tu es correct, tu peux comme fitter. Pas de problème, tu as l'air de faire partie de la gang. Maintenant, peut-être que tu connais absolument personne. C'est assez simple de connaître les codes le dimanche matin. À cette église-là, est-ce qu'on bouge beaucoup? Non, pas tellement. J'allais décoller, mais c'est correct, je me calme. S'il vous plaît, c'est une joke. Mais vous comprenez, c'est assez simple le dimanche matin parce que quand même, c'est pas si profond que ça. Je suis pas en train de te partager ce que j'ai vécu cette semaine, ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait pleurer, mais autour d'un repas, c'est là que ça change. Et c'est là que si je viens manger chez toi avec mes petits-enfants, ben, tu vas voir comment j'élève mes enfants. Si c'est des tornades ou s'ils sont tranquilles tout le long. Ah, OK, c'est l'éducation des enfants. OK, c'est comme ça. Puis tu manges ça, puis tu fais quoi? C'est quoi que tu fais pendant tes vacances? Ah, moi, je vais faire le tour du monde. Ben moi, je vais rester chez nous parce que je n'ai pas d'argent pour voyager. C'est là qu'on commence un peu à tester l'amour chrétien. Un peu. Ah, c'est beau chez vous, hein? Tu as réussi? Je pense qu'on a besoin de manger ensemble, de se côtoyer, de se voir pour vraiment vivre un passage comme celui-là. Et Paul va nous dire, accueille ton frère sans le mépriser ni le juger. Ce qu'on veut pour que des gens découvrent l'Évangile de Jésus-Christ, c'est qu'ils entrent en communion avec l'Église, avec Dieu, mais ça va passer à travers l'Église qui porte le message. Mais pour ça, il va falloir que l'Église soit en communion avec elle-même, entre nous, que nous soyons en relation. Et Paul va nous dire, accueille ton frère sans le mépriser ni le juger. Dans l'église de Rome aussi, les repas révélaient des différences. Certains mangeaient de tout, buvaient du vin, vivaient leur liberté chrétienne. D'autres étaient plus prudents, plus sensibles, plus stricts. Et le message que Paul dit, le message de l'Évangile, c'est pas « soyez tous uniformes ». C'est important, dans le passage, Paul commence en disant, « ceux qui sont forts vivent toute leur liberté chrétienne ». Mais ça ne doit pas se faire au mépris des autres. Et donc, Paul prend le temps de trancher qu'il y a beaucoup de liberté en Christ. J'y reviens dans quelques instants. Mais c'est tentant pour ceux qui vivent toutes les libertés qu'on a dans l'Évangile d'avoir une attitude hautaine et méprisante. Laisse-moi t'aider, laisse-moi te libérer de tes petites convictions. Romains 14, 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Alors, dans l'Église, contexte, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis à Christ, il y avait des non-Juifs, et plusieurs des Juifs gardaient leur conviction qu'ils ne pouvaient pas manger, par exemple, du porc. Et les non-Juifs se sentaient absolument libres, et ils étaient libres. Certains des Juifs convertis vivaient aussi cette liberté-là. Et là, il y a des jugements qui s'installaient. Et c'est facile de le vivre entre nous, dans l'Église, avec toutes sortes de choses, la manière qu'on élève nos enfants, notre standing de vie, la voiture que je conduis, comment je m'habille, c'est quoi tes préférences? Tu as des tatous, tu n'as pas de tatous? C'est facile d'avoir toutes sortes de jugements. Et ceux qui vivent toute leur liberté, ils disent, regarde, regarde, pauvre toi, t'es pogné avec tes petites convictions. Ambroise de Milan, un des pères de l'Église, on parle de 300 quelques, a dit ceci, « Personne ne doit mépriser celui que Christ a daigné recevoir. Dans l'Église de Christ, ce n'est pas l'endroit pour mépriser ceux que j'estime être faibles dans leur foi. Tôt dans mon ministère pastoral, Dieu m'a conduit dans un passage dans 1 Thessaloniciens 5,14. Et dans ce passage-là, j'étais un peu irrité contre l'Église. Je ne vis plus jamais ça maintenant. J'étais un peu irrité contre l'Église. Je trouvais ça lourd. Des fois, je vous trouve lourd un peu. Puis j'étais en prière, puis le Seigneur me donne ce passage-là. Puis dans le passage, il dit « Redressez ceux qui vivent dans le désordre, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Puis là, c'est comme si le Seigneur m'avait dit « Regarde, Yannick, c'est ça ton ministère. C'est ça être pasteur, user de patience envers tous. Oui, mais lui, je le trouve tellement faible. Il est faible, c'est lourd d'aller l'aider, il est faible. » Le Seigneur m'a repris et m'a dit « Yannick, use de patience envers tous. » Ambroise de Milan dit ici « Qui es-tu pour mépriser celui que Christ a accueilli? » Amen. Et donc, toute personne qui vient ici, quelles que soient ses convictions particulières, ses opinions particulières, devrait se sentir accueillie et non méprisée. Et Paul ne corrige pas seulement ceux qui disent vivre cette liberté, il corrige aussi ceux qui transforment leurs convictions personnelles en tribunal spirituel. Ceux qui ont toutes sortes de convictions, non, mais un chrétien ne devrait pas faire ça. Je comprends que peut-être, mais c'est dangereux, donc tu ne devrais pas. Tu devrais t'abstenir de ça, tu devrais t'abstenir de ça. Dans ma conscience, moi, je ne suis pas en paix avec ça. Tu joues avec le feu. Ce que tu appelles liberté, c'est jouer avec le feu. Et là, ça devient l'opportunité de juger. Ah, certainement que celui-là n'est pas rempli de l'esprit. Certainement que celui-là, son cœur n'est pas vraiment consacré. Je le vois, il y a de l'air mondain. C'est la réputation de Jésus, d'ailleurs. Et là, il y a des jugements. Ce n'est pas du mépris, c'est des jugements. Je voudrais te protéger, mon frère. Laisse-moi t'enseigner. Tu joues avec le feu. Tes libertés sont malsaines. C'est tentant, c'est tellement tentant d'aller dans le jugement. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Tel fait une distinction entre les jours, au verset 5, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Derrière les tensions d'opinion, Paul voit un problème beaucoup plus profond. Lorsque nous méprisons ou jugeons constamment notre frère, nous oublions à qui il appartient réellement. Ce matin, on va aborder une question délicate. Quand est-ce qu'un chrétien doit juger, puis quand est-ce qu'un chrétien ne doit pas juger? Parce que les Écritures nous disent les deux. Paul va nous dire, lui-même, Paul va nous dire qu'on doit juger ceux de l'intérieur, mais pas ceux du dehors parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Et pourtant, ici, il semble dire exactement le contraire. « Pourquoi prenez-vous la place de Dieu? » Verset 4. « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? » Si tu es chrétien, tu es serviteur de Christ. « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermer. » C'est de là que viennent les préoccupations. Celui qui se sent libre regarde celui qui a plein de convictions puis il dit « Mais ma foi, comment tu vas toffer la vie chrétienne si tu es pris avec toutes sortes de règles, au-delà des règles qui sont clairement des péchés? Tu as un paquet de règles en plus. Comment tu vas survivre? Ta vie chrétienne est lourde, tu ne sens pas la grâce. Laisse-moi te libérer. » Et celui qui, au contraire, a plusieurs convictions puis trouve les libertés dangereuses, dit « Mais tu vas tomber! » Et ce que Paul dit ici, il dit « Non, 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 attends. » Ce n'est pas à toi de le garder debout, c'est à son maître de le garder debout. Et s'il y a une conviction devant le Seigneur, qu'il honore sa conviction. Si par la foi, il est libre de faire ça, qu'il soit libre de le faire. Verset 10 à 12, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Alors, quand je disais qu'il y avait un fil conducteur, voyez-vous, Romains 12, Paul dit, « Ce que nous devons dire, c'est de laisser la vengeance à Dieu. » devant le mal qu'un ennemi peut me faire. On n'est pas là, on n'est pas dans les ennemis ici. Mais devant le mal qu'un ennemi peut me faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher comment je peux surmonter le mal par le bien. Ça, c'est mon mandat à moi. Parce que Dieu juge. Romains 13, Dieu juge déjà à travers le gouvernement qui met en place pour exercer la justice. Pas toujours avec justice, mais pour exercer la justice. Et donc, je dois encore une fois m'en remettre à Dieu. Et Paul revient ici avec ça encore. Il dit, si ton frère a cette conviction-là, laisse-le répondre à Dieu de ça. Dieu va lui demander des comptes. Est-ce que vraiment il agissait en toute bonne conscience ou est-ce qu'il était en train de se faire croire des choses juste pour vivre tout près du péché, voire dans le péché? C'est ça qu'il dit ici. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Bien sûr, je me présentais devant Dieu. Et Dieu évaluera mon service pour lui. Je suis sauvé par grâce, mais je vais rendre des comptes. Et tu vas rendre des comptes. Et ce que tu appelles une conviction, que ce soit plus restrictif ou que ce soit plus libre, tu en rendras des comptes devant Dieu. Et je dois apprendre comme chrétien à remettre à Dieu mon frère, ma sœur, qui a une autre conviction. Et de l'accueillir vraiment, pas être dans la tolérance, pas être dans la distance, mais vraiment accueillir et le remettre à Dieu. Plusieurs des relations avec lesquelles vous avez de la difficulté, toutes vos difficultés reposent seulement sur ça. Remets-les à Dieu et accueille-les au nom de Christ. Plusieurs de vos relations difficiles, les difficultés que vous vivez se jouent uniquement sur ça. Remets-les à Dieu et accueille-les au nom de Christ. Nous ne sommes pas appelés à nous tolérer les uns les autres, mais à nous accueillir les uns les autres. Aujourd'hui, ça peut être dans des convictions sur l'alcool, sur les tatous, j'ai dit tantôt, sur l'alimentation, sur les finances, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Certains vivent dans l'abondance, d'autres vivent dans la disette. Et Paul nous dit, bien, Dieu t'a donné pour pourvoir à tes besoins, pour être généreux, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, mais après avoir aidé, est-ce que ça veut dire que je dois me dépouiller de tout? Il y avait encore des riches dans l'Église. On n'est pas dans le communisme, là, ici. Là. Non, justement, parce que dans le communisme, on juge tout le monde. Et tout le monde doit être égal. Il n'y a pas de liberté de conscience. Il n'y a aucune liberté de conscience. Le peuple va te juger. Mais ce n'est pas à ça que je suis appelé si je suis en Jésus-Christ, si j'ai l'Esprit de Christ en moi. Je suis appelé à répondre à mon Dieu. Et ce que je trouve fascinant dans une église comme la nôtre, qui est multiculturelle, c'est que plus nous allons nous côtoyer, plus on va être exposé à des différences culturelles. Certaines de ces différences-là culturelles vont exposer des péchés dans ma culture. Dans la société québécoise, il y a des péchés qui sont là. Puis les chrétiens peuvent un peu s'endormir puis devenir tolérants avec ça. Si tu es arrivé ici depuis seulement 2 ans, il y a des choses où tu dis « je ne comprends pas que les chrétiens fassent ça ». Sais-tu quoi? Si j'allais dans ton pays d'origine, je te dirais la même chose après 2 ans. Je dirais, je ne comprends pas. Une bonne discussion que j'avais avec un frère qui vient du Togo, que j'aime beaucoup. Le culte du succès scolaire chez ses enfants. Hein? Un jour, Dieu l'a confondu puis il a dit, mais je mets une pression qui ne vient pas de Dieu. Mais il est où ce 1% qu'il manque? C'est 100% que j'attends. Toutes les cultures ont des péchés et toutes les cultures ont des éléments qui ressemblent à Dieu. Et la beauté de l'Église, c'est qu'en vivant ensemble, en se côtoyant vraiment, on va apprendre à avoir ces conversations. Puis là, à un moment, tu vas venir me voir et tu vas me dire, « Oui, mais Yannick, est-ce que vraiment tu penses que c'est correct que tu fasses ça? » Vas-y, discutons. À la fin, ça se peut que je te dise que oui, je suis en paix avec ça. Et si vous êtes habitué à l'enseignement ici, vous savez que des fois, je provoque avec certains loisirs que j'aime, comme aller faire des récoltes l'automne dans la forêt. Je ne le fais pas parce que je trouve ça drôle pour de vrai. Je le fais parce que dans l'Église, cette diversité-là doit exister. Vous comprenez? Elle doit être là. Cet amour-là doit être là. Et une Église qui ne permet pas de vivre ça, sombre soit dans le légalisme ou soit dans une tolérance à l'excès. C'est ce qu'on va voir ensemble. Celui qui laisse Dieu être juge devient libre d'aimer. Est-ce qu'il y a une personne que actuellement tu n'es pas libre d'aimer parce que tu penses que Dieu t'a donné un mandat d'aller redresser cette personne-là? Dans un domaine d'opinion en plus. Celui qui laisse Dieu être juge devient libre d'aimer. Et Paul ne veut pas seulement nous arrêter les jugements dans l'Église, il veut aussi transformer notre manière d'utiliser cette liberté. Cette liberté doit construire une unité des relations à l'intérieur du corps de Christ. Parce que le problème, ce n'est pas seulement que nous avons des opinions différentes, le problème, c'est que nous voulons souvent défendre nos droits plus que nous voulons aimer un frère. Renonce à une liberté qui détruit ton frère. Ce chapitre-là m'a toujours fasciné dans Romains 14 parce que Paul dit « tu es libre ». Et si on t'enseigne qu'il n'y a pas de liberté, si tu es dans une église où il y a plein de choses, quand je me suis converti, il y avait toutes sortes de choses que tu n'avais absolument pas le droit de faire. Moi, je vais le dire comme ça, j'ai été initié à la chasse par mon père. Ça fait partie de mon héritage familial. J'étais très jeune. À l'époque, quand je me suis converti, quelqu'un qui se convertissait se débarrassait des fusils. Tu n'allais plus à la chasse jusqu'à ta mort. Quand je me suis converti, un pasteur ne portait pas de barbe. C'est mal. Imaginez la moustache, là, c'est l'offense totale. Il n'aurait jamais pu écouter un message. C'est des convictions, c'est des opinions. Paul dit, non, tu es libre. Tu es libre. Soyons clairs, tu es libre. Si tu ne l'enseignes pas, tu vas finir avec une église super légaliste. Mais le message ne s'arrête pas là. Le message ne s'arrête pas là. Renonce à une liberté qui détruit ton frère. La liberté chrétienne est vraie, elle est réelle. Il dit au verset 14, « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Tu veux manger de n'importe quelle viande, mange de n'importe quelle viande. Alors, ce que Paul est en train de faire ici, il est en train de dire, « Condamne ce que Dieu condamne et dans ce que Dieu ne condamne pas, laisse toute la liberté, assume cette liberté. » Je veux juste revenir en arrière, et c'est là que je vous disais, je veux être clair, Paul n'est pas en train de dire que dans l'Église, on est appelé à ne rien juger. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire du tout. Si vous êtes familier avec juste la lettre aux Romains, Romains 13, versets 12 à 14, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » On vient juste de couvrir ça. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Et donc, il y a des choses qui sont clairement péchées. Tu me dis, ah, moi, je veux avoir un tatou. Et mon tatou, ça va être des incantations magiques. C'est assez simple. Je peux trancher pour toi. Tu veux 12 versets, je peux donner 12 versets. Fais-toi pas faire un tatou comme ça. Ça, c'est un péché. C'est simple. Et donc, Paul n'est pas en train de dire que l'Église ne doit pas juger. Mais je ne veux juger que ce qui est clairement un péché dans la Bible. Et tout ce qu'on est en train de voir ensemble ce matin, ça s'applique particulièrement dans la maison. Parce que pour l'un, il va dire, écoute, il me semble que tu es en train de glisser dans la luxure, dans l'amour de l'argent. Puis franchement, ce n'est pas si clair, mais il me semble que. Peut-être que je dois m'arrêter à « il me semble que » puis je prie pour toi. Puis que Dieu te parle si c'est ça. Parce que vous voyez, lorsque je prends cette énumération de péchés que j'ai là, il y a aussi une zone grise, une expression de quelque chose qui ne serait pas un péché, mais qui pourrait ressembler. Puis à mes yeux, certains comportements que tu auras, où je dirais, « Oh, OK, tu franchis une ligne, là. » Mais cette ligne-là, elle est où exactement? Il y a des choses qui sont claires. Il y en a beaucoup qui sont plus nuancées. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est ne transforme pas les opinions en commandements divins. Tout ce qui n'est pas commandé relève de la liberté. Et ensuite, Paul dit « Sois libre de la liberté chrétienne, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. » Dieu ne t'a pas libéré pour que tu fasses tout ce qui te plairait. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que j'ai été libéré d'être centré sur moi-même et de vivre pour moi. Et j'ai maintenant la liberté d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Et si tu viens manger chez moi, je vais être extrêmement sensible. Si tu veux qu'on mange juste 3 pieds de céleri, on va manger 3 pieds de céleri. Je vais être heureux avec ça. Je ne sortirai pas le barbecue. On fera revenir des zucchinis sur le barbecue, c'est bon aussi. Mais je vais être heureux de ça. Et donc, si du haut de la chair, on enseigne, pour être clair, voici les libertés chrétiennes dans nos rapports les uns avec les autres, c'est là que je veux vraiment accueillir mon frère avec beaucoup de sensibilité. Je ne ferai pas exprès pour être une pierre d'achoppement pour toi. Mais une chose est certaine, je vais l'être parfois. On va l'être les uns envers les autres parce que je n'arrive même pas à deviner ce qui serait malséant pour toi. Je ne peux pas toutes les deviner. Et donc là, tu vas être obligé d'accepter de ne pas me juger. Puis peut-être que dans la conversation, je vais dire « Oh, je suis désolé, la prochaine fois, je fais attention à ça, je ne voudrais pas être une pierre d'achoppement pour toi. » Sois libre de la liberté chrétienne. Parce que Paul va nous dire que l'amour est plus grand que tous tes droits. C'est en fait le plus grand de tes droits. Le plus grand de tes droits comme chrétien, c'est d'aimer. Parce que tu as été libéré pour le faire par Christ. Parce que Christ t'a accueilli comme tu étais. Avec tes péchés, pas juste avec tes opinions. Et il a pris tes péchés sur la croix à ta place. Donc le plus grand de tes droits maintenant, c'est d'aimer. Ce n'est pas le plus grand de tes devoirs. C'est le plus grand de tes droits. Parce que tu es libre pour pouvoir le faire. Et ce que Paul va nous dire, c'est que le royaume de Dieu dépasse les opinions. Verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et lorsque j'ouvre ma maison puis que je reçois des gens qui sont pour moi des étrangers, des étranges, mais que je les accueille et puis on a une vraie connexion spirituelle ensemble. Je te raconte mon histoire avec Christ, tu me racontes la tienne. Je te partage mes fardeaux, tu me partages les tiens, on prie ensemble. C'est ça les groupes connexion. Des gens super différents qui se réunissent dans des maisons. Pourquoi dans des maisons? Parce qu'on veut des vraies relations. C'est pour ça qu'on s'invite les uns les autres à manger. Mais Paul me dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est le fruit spirituel qui est récolté au milieu de nous. Et moi, je vous dis que les gens de l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas l'Église, dans notre culture aussi individualiste qu'elle l'est, ces gens-là sont touchés lorsqu'ils voient cette réalité-là dans une église. Pas le dimanche matin seulement. On le dit, c'est assez simple de connaître les codes puis de fitter le dimanche matin. Mais dans des vraies relations riches, dans ta maison, j'ai envie de te dire, même pas dans un café ou au resto, c'est encore trop simple. Donc, viens manger chez moi. Invite-moi à manger chez toi. Invitons-nous les uns les autres. Voyons comment nous vivons. Voyons comment nous élevons nos enfants. Partageons ensemble nos loisirs. Tom Schreiner, un grand enseignant de la parole de Dieu, a dit ceci, « Les croyants doivent être prêts à renoncer à leurs droits personnels pour le bien spirituel des autres. Le frère ou la sœur que tu trouves compliqué, Christ l'a accueilli. » Est-ce que toi, tu l'accueilles? Ça ne se vit pas le dimanche matin, ça. Si ta réponse, c'est oui, Christ veut le voir. Rouvre ta maison. Ouvre ta maison et invite quelqu'un à manger chez toi. Ouvre ta cour pour un barbecue cet été. puis reçois une gang de l'Église chez toi. Puis prenons du bon temps ensemble. Je termine avec ceci. Paul va nous dire, vis pour Christ en cherchant l'édification de son peuple. Voyez-vous, c'est pour Jésus-Christ que nous vivons, c'est pas pour nous-mêmes. Et le monde a besoin de voir une Église qui vit pour Christ, pas pour elle-même. Et c'est tentant pour nous, comme Nord-Américains, et même si ça fait juste 2 ans que vous êtes ici, dans 5 ans, vous allez nous ressembler plus que vous le désireriez, je vous le dis. C'est tentant pour nous, comme Nord-Américains, de tout mettre dans des cases. J'ai ma case chrétienne où je côtoie les chrétiens. J'ai ma case pour mes loisirs ou moi où les personnes qui me checkent, là, je peux être libre dans mes libertés. Je ne parle même pas dans le péché. J'ai ma case travail, j'ai ma case sport. Vous avez remarqué à quel point c'est difficile de se voir, il faut prendre des rendez-vous? J'ai une sœur qui nous disait ça. Elle vient du Brésil. Elle dit, il faut prendre des rendez-vous pour se voir. C'est comme ça ici. Est-ce qu'il y a de la place dans ton agenda cette semaine pour que tu vois des gens de l'Église? Est-ce que dans le prochain mois, il y a de la place pour que tu vois des gens de l'Église? Nous servons Christ ensemble. Je ne sers pas mon agenda. Je ne sers pas mes projets. Je ne sers pas mes vacances. Je ne sers pas mes week-ends. Je ne sers pas mes loisirs. Je sers Jésus-Christ. Et il y a des gens ici qui cherchent une Église où s'intégrer vraiment. Il y a des gens ici qui viennent à l'Église depuis 2, 3, 4 mois, puis qui disent, c'est pas clair encore pour moi qu'on peut s'intégrer dans cette Église-là. Je vous le dis parce que je l'entends tout le temps. Mais si tu ouvres ta maison, puis tu invites quelqu'un que tu croises ici ce matin, tu dis, ça fait une couple de semaines, je vois que tu es assis là-bas, on ne se connaît pas, viens-tu manger chez nous cette semaine? On n'invite pas des étrangers à la maison. Bien, je pense que c'est pas mal ça l'Évangile. T'invites un étranger à la maison. Vis pour Christ en cherchant l'édification de son peuple. C'est pour Jésus-Christ que nous vivons. Versets 7 et 8, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Paul nous rappelle ici quelque chose d'immense. La vie chrétienne ne tourne pas autour de nous-mêmes. Cette semaine, je discutais avec une dame qui aime vraiment Jésus et qui est vraiment mal prise. Vous savez ce qui m'a fait du bien? Quand j'ai terminé cette rencontre-là, je me suis tourné vers une sœur dans l'église, j'ai dit, « Peux-tu me trouver une grande sœur pour cette dame-là? » Parce qu'elle a besoin d'encouragement et elle est vraiment mal prise. J'ai reçu un courriel le lendemain. J'ai trouvé. Ça m'a fait du bien. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et si tu es chrétien comme moi depuis des années, tu possèdes à l'intérieur de toi un trésor de sagesse, de connaissance de Dieu qui demande une seule chose, c'est que tu ouvres ta maison. Que tu ouvres ton cœur, premièrement, mais que tu ouvres ta maison. Et si l'espoir ouvre son cœur et sa maison, on va entrer dans des vraies relations ensemble. Ça va se frotter. Il va y avoir des accrochages. Il va y avoir des divergences d'opinion. On va avoir des belles discussions. Et ça se peut que je te dise, non, mais regarde, c'est ma conviction. Je suis en paix avec ça devant Dieu. Ça se peut que tu doives me respecter sans me juger. Comme ça se peut que je te dise, non, mais ça, je ne suis vraiment pas confortable. Ça se peut que tu doives m'aimer sans me mépriser. Est-ce que tu es prêt à faire ça, l'espoir? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton foyer? Actuellement, à l'Église de l'Espoir, on a une dizaine de groupes connexion pour à peu près 400 personnes. Ça veut dire que nos salons doivent accueillir en moyenne 40 personnes. Vous comprenez que ce n'est pas ça un groupe maison? 10-12. Vous savez c'est quoi notre prière? On prie pour 70 groupes connexion. Ça, c'est notre prière. Parce qu'on ne veut pas être juste 400 dans 5 ans. Si vous avez entendu le message de mon ami François Turcotte, on va être 800 parce qu'on veut faire des disciples de Christ. Est-ce que tu es prêt, l'espoir, à ouvrir ton salon, à ouvrir ta maison? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. C'est Jésus-Christ que nous servons. Augustin a dit ceci, « Dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. Et en toutes choses, la charité. » Je répète ça. Dans les choses essentielles, l'unité. On a une confession de foi qui dit tout ce qu'on croit. On a une alliance qui nous aide à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. En toutes choses, la charité. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce qu'il te dit que c'est le temps que tu ouvres ta maison? Que tu ouvres ton cœur? C'est pas grand-chose. Mais ça pourrait vraiment changer toute ton expérience de la vie chrétienne. Et si tu me dis, non, mais ça va mettre du désordre dans ma vie. L'Évangile travaille de manière très désordonnée. Parce que quand moi je suis arrivé au Seigneur, j'étais tout croche. J'ai encore le sentiment souvent d'être tout croche. Et Christ m'a accueilli. L'espoir, est-ce que tu es prêt à accueillir des gens tout croche chez toi? On va avoir des barbecues cet été, portez-vous volontaire. Mais déjà cette semaine, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as croisé ici depuis quelques semaines, tu dis, « Hey, j'aimerais ça te connaître, j'aimerais ça t'inviter chez moi. » Oui, mais on a de la difficulté à se parler. On parle bientôt la même langue. C'est parfait comme ça, j'aime ça. C'est génial. Vous devriez venir dans notre groupe Connexion. Bientôt, on va parler tous la même langue. Je pense que ça va être le portugais. Et le français. Et le français. Si le Seigneur te parle, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Ouvre ta maison. Sois prêt à recevoir chez toi. Et revenons à cette habitude que l'être humain a depuis des milliers d'années de manger ensemble, de partager des repas. En plus, moi, je veux goûter à toutes les cuisines qu'il y a ici. Non, mais sérieusement, il y a une richesse qui est ici. Maintenant, je veux m'adresser aux jeunes et aux moins jeunes. On a une gang qui est en haut, il y en a qui sont ici. Cette diversité-là et cette ouverture-là doit se vivre à travers les générations. Si tu es jeune puis tu dis, écoute, c'est sûr que les personnes âgées, je ne les trouve pas super intéressantes. Ils ont un trésor de vie à te partager et eux viendront peut-être pas te déranger. Et si tu es un vieux comme moi, tu as tellement de choses à donner à des jeunes, tellement de conseils, tellement d'écoute à donner, tellement d'encouragement. Et donc, on a le privilège d'avoir une diversité intergénérationnelle à l'espoir. Mais est-ce qu'on se côtoie vraiment? Nos groupes connexion devraient ressembler à ça. Nos repas devraient ressembler à ça. Que le Seigneur nous fasse grandir ensemble dans cette communion et dans cet amour véritable. On va prier. Seigneur Jésus, viens changer nos cœurs et nos attitudes. Viens ouvrir nos cœurs et nos maisons, Seigneur. Père, que l'Église de l'espoir soit remplie de ton esprit, pour être convaincu d'être ouvert à l'autre avec toutes ses différences. Que la différence, Seigneur, ne produise pas en nous l'indifférence. Mais au contraire, que ça nous amène à vouloir connaître, à vouloir s'ouvrir, à vouloir dialoguer. Et là où on aura des divergences d'opinion, nous respecterons les convictions les uns des autres. Nous accueillerons l'autre avec ses différences, Seigneur. Et oui, Père, ça me fait plaisir de renoncer à mes libertés pour accueillir un frère qui ne vit pas la même liberté que moi. C'est mon plus grand privilège de le faire. Seigneur, je te prie pour toute personne qui fréquente cette église depuis des semaines et des mois et qui se sent encore seule. Viens briser cette solitude. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui, dans les dernières semaines, les derniers mois, n'ont reçu personne à manger à la maison. Convainc-les, Seigneur, d'ouvrir la maison, d'ouvrir le foyer, de s'inviter, d'échanger, de connecter ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes réunis ce matin pour te louer, pour t'adorer à cause de toi, Jésus. Toi que nous servons, toi pour qui nous vivons. Et Seigneur, on veut te célébrer non seulement dans nos louanges le dimanche matin, dans des messages ou par une poignée de main le dimanche matin, mais par des vraies relations riches, Seigneur. Que ton Église, Jésus-Christ, porte manifestement ce fruit d'accueil les uns des autres. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.